Les rencontres d'Edmond Morel. Philippe Franck, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de Colère Rouge, qui est le dernier en date des albums des aventures de Largo Winch. Jean Van Am est au scénario comme d'habitude. Alors, Philippe Franck, ma première question porterait sur la manière dont on travaille avec un scénariste comme Jean Van Am par rapport aux autres scénaristes avec qui vous avez travaillé. Est-ce qu'il y a une caractéristique dans le modus operandi?
J'ai un peu de mal à répondre à cette question parce que mon expérience avec d'autres scénaristes que Jean Van Am est finalement, après ces 22 ans de collaboration, malgré tout assez réduite. J'ai travaillé 3 ans en commençant, on va dire, au sortir des études, en commençant comme dessinateur avec 2 scénaristes. L'expérience a été assez courte, puisqu'on a fait ensemble et pour chacun d'eux 2 albums. Le premier s'appelait Bob de Groot, qui n'était pas vraiment un scénariste qui est connu pour des histoires réalistes, mais c'était des albums qui s'appelaient Des villes et des femmes. Une espèce de polar un peu noir, mais assez court sur la durée, puisque chaque histoire faisait en moyenne entre 10 et 15 pages. On en a fait 6 comme ça, donc 2 albums d'un recueil de 3 histoires. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler avec Francis Delvaux, qui, lui, n'était pas non plus un scénariste, on va dire, professionnel, pas de la même manière que Bob de Groot, qui n'était pas habitué au réalisme, plutôt à l'humoristique. Mais Francis Delvaux est un homme de radio, qui s'essayait à l'époque à l'écriture. Et donc, je ne peux pas comparer ces deux-là avec Jean Van Am, qui est un vieux routard de la série réaliste traditionnelle. Et voilà, j'ai eu l'occasion de lire d'autres scénarios faits par d'autres professionnels. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a peu de commune mesure entre ce que Jean peut écrire et les autres.
Alors, racontez-nous un peu, si on entre dans votre atelier, comment se présente le scénario de Jean Van Am au départ? Évidemment, c'est une très longue série, mais comment est-ce que vous visualisez les histoires qu'il vous raconte? Est-ce que c'est comme un lecteur qui lirait les romans dont au départ Largo Winch était le personnage?
Non, les scénarios de Jean se présentent un peu comme une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a un bref descriptif pour chaque image de ce qui s'y passe, ou pour une séquence, admettons. Et ensuite se succède une série de dialogues, style question-réponse, avec chaque fois, en caractère gras, le nom de la personne qui parle. Et il a une particularité, Jean, c'est que quand on lit son scénario, pour la première fois ou après à la relecture, il arrive à intéresser son lecteur. C'est pas qu'un document de travail. Il y a plus que ça. Il parvient à traduire, comme dans un roman, en fait, un certain suspense, une émotion, tout en glissant dans le scénario toutes les choses qui sont importantes pour le dessinateur. Mais ça se lit un peu comme un roman dont on aurait simplifié les grandes lignes. À savoir des descriptions qui prennent 10 pages et évidemment les pensées secrètes du héros, du personnage principal. Ça, évidemment, c'est absent parce qu'on n'en a pas besoin en bande dessinée. Mais il y a une particularité, c'est que chaque fois, toujours, quand je lis le nouveau scénario, donc la première fois, la première lecture, j'ai cette impression à la page 16. Je ne sais pas pourquoi c'est peut-être parce que ça correspond au tiers de l'album. J'ai l'impression d'en avoir déjà lu un tout entier. Et je me dis à ce moment-là, il en reste encore quand même 32. Et c'est déjà vachement riche et foisonnant dans ces 16 premières pages. Voilà, ça c'est... Mais un scénario est un objet que je vais traîner tout au long d'une année. 10 mois en général, 12 mois parfois quand on déborde, qui va m'accompagner tous les jours. C'est mon espèce de bible du moment que je vais essayer d'abord, de respecter, pour que ne pas trahir les intentions de mon co-auteur. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que il y a dans ce scénario suffisamment de non-dits pour me permettre de garder une certaine liberté dans la création. La création, quand on est dessinateur, ça va de la mise en page, la forme de la planche, le nombre d'images qu'on va y trouver, leur grandeur, l'aspect des personnages, la lumière, les costumes, les décors. Voilà. Il y a suffisamment de non-dits dans les scénarios de genre pour y trouver sa propre liberté. Mais ce sont des paramètres qui délimitent une espèce de surface de terrain dont on ne peut pas s'échapper. Et on va trouver sa liberté dans ces contraintes qui sont prescrites dans cette Bible.
Si on compare la bande dessinée au cinéma, quelle serait la fonction du dessinateur par rapport au scénariste? Est-ce que le dessinateur est une sorte de réalisateur et le scénariste est scénariste?
Non, c'est bien plus que réalisateur. En BD, le dessinateur est acteur, costumier, éclairagiste, décorateur, photographe. Réalisateur, évidemment. Non, on cumule absolument toute l'équipe qu'on peut voir au générique d'un film. On les cumule. Bon, dans un film, c'est simple. Il y a un scénario et puis il y a une équipe derrière. Voilà, mais on est l'équipe.
Oui, ça, c'est vraiment... Et vous dites ça avec un calme.
Mais c'est vrai. C'est une réalité.
Oui, non, tout à fait.
C'est une réalité, voilà. C'est que le grand plaisir en BD, c'est qu'on est seul maître à bord, qu'au cinéma, il faut composer avec des égos de chacun de ces artistes, parce que ce sont des gens de talent, évidemment, qui travaillent tous ensemble à la réalisation d'un projet. En BD, c'est plus simple. Bon, c'est vrai que j'ai un coloriste.
Alors, on va passer en vue les différents métiers. D'abord, celui de responsable du casting. Lorsque vous dessinez un nouveau personnage, indépendamment des personnages clés de la série, à quel moment est-ce que vous sentez que la figure que vous avez, que vous voyez apparaître sur le papier, correspond à ce que Jean Van Damme voulait et à la psychologie du personnage, celle que vous l'apercevez?
Il n'y a pas de règle. Il y a des personnages qui s'imposent, on va dire, dès le premier coup de crayon, parce que j'ai une idée préconçue dès le départ. Je le vois bien, je sais quel est le type de physique qui va pouvoir rentrer dans ce créneau-là. Il y en a d'autres, là, dans Colère Rouge, j'ai un personnage qui s'appelle York Ivachvili, qui est un personnage un peu complexe, qui a un passé un peu tumultueux, qui est un gamin qui s'est fait tout seul, qui a dû se battre pour survivre. Et évidemment, l'Argo va être confronté à lui, adulte. Mais j'en avais réalisé... Enfin, j'avais fait des croquis dans un premier jet, comme ça, d'un personnage qui me satisfaisait... Pas qu'il me satisfaisait pas, mais j'avais dessiné un personnage à contre-emploi. C'est-à-dire qu'il avait un peu une tête de Bee Gees, un peu démodée, mais à la fois terriblement sympathique pour le rôle qu'il devait endosser, alors que c'est une belle crapule. Mais c'est toujours intéressant, les personnages à contre-emploi. Et Jean n'aimait pas du tout, donc j'ai repris le crayon, j'ai recommencé. J'en ai créé un second. Jean était tout à fait intéressé par celui-là. Et puis je lui faisais quand même remarquer que le personnage qu'il mettait en scène dans le scénario était un peu plus âgé que l'Argo et que celui que je venais de créer était trop jeune, enfin semblait trop jeune. Donc j'ai continué mes recherches et j'en ai créé un troisième qui finalement s'est avéré être le bon. Non mais Jean Van Damme, je ne lui soumets pas tous mes croquis préparatoires avant d'arriver au résultat. Je lui soumets les choses au moment où j'estime que c'est l'aspect qu'elles auront dans l'album. Donc, et c'est vrai que pour les personnages, quand même, c'est quelque chose d'important, puisque ça va nous occuper en général, ces personnes-là, ces acteurs-là, vont nous occuper pendant deux volumes. Autant qu'il soit le plus proche possible de ce que Jean voulait ou de ce qu'il imaginait ou parfois de ce qu'il n'imaginait pas, hein, ça arrive. Parfois je vais je prends à contre-pied ce qu'il avait imaginé, mais ça ne change rien à l'essence de l'histoire et au rapport que ces personnages peuvent avoir, c'est juste pour leur donner un supplément de réalité. Parce que je me méfie terriblement des stéréotypes en ce qui concerne ces fameux acteurs, surtout les seconds rôles. Je trouve que le rôle est plus riche et plus intéressant parfois quand on les utilise à contre-emploi.
Alors on va passer au décorateur maintenant et au directeur de la photo, que le dessinateur est aussi. Au niveau des décors, il y a toujours, et en particulier dans cet album-ci de Largo Winch, une attaque de la réalité, une approche de la réalité qui est presque parfois hyper réaliste. Je pense ici aux scènes où le paquebot est en mer. On est presque dans une ligne claire, mais sans y être. Alors comment ça fonctionne, cette partie-là?
difficile à dire comment ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que je me documente évidemment beaucoup, parce que j'ai à traiter un scénario, on va dire, hyper réaliste en ce qui concerne les magouilles financières, la probabilité que ces choses puissent se passer. De la même manière, quand je me documente sur les engins, si on parle de porte-conteneurs, ou que ce soit un avion, un hélicoptère, j'aime bien faire le tour de la question. Bon, j'apprends des choses aussi évidemment au fur et à mesure de cette prospection, et j'essaye de, dans la mesure du possible, on va dire, de pas tomber dans le cliché, ce qui est parfois difficile, mais de proposer au lecteur quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Et pour le porte-conteneur en question, voilà, il faut savoir qu'un porte-conteneur, c'est une espèce de bus qui transporte de la marchandise et qui fait toujours le même trajet. Et donc ces bateaux sont relativement stéréotypés. Ils ont tous, parce que depuis 1967, la création du premier conteneur, il faut savoir que le conteneur, la boîte, comme on dit en termes de marine marchande, et cet élément qui va changer le commerce mondial et qui va permettre que la planète se mondialise. On parle de mondialisation, c'est dû au conteneur. À partir du moment où on crée le conteneur, on crée aussi le porte-conteneur, le bateau spécifique qui va pouvoir les empiler et les transporter sur des grandes distances. Mais on crée aussi des ports à ce moment-là, avec des grues. Elles sont partout, sur toute la planète, les mêmes, dans tous les ports du monde. Et donc, voilà, une uniformisation à cause d'un mode de transport. Et ça m'intéressait de savoir ce que j'allais dessiner, pourquoi je le dessinais. Et voilà, le pourquoi du comment fait partie aussi du métier. Et donc là, ce que j'ai dessiné, c'est un porte-conteneur de 18 000 à 25 000 boîtes. Parce que les conteneurs peuvent s'aligner sur le plomb sur, on va dire, 17 ou 21 rangées successives, les unes à côté des autres, sur 200 mètres de long. Faites le calcul, sur 6-7 étages, ça représente une somme de boîtes conséquente. Mais il n'était pas nécessaire d'aller visiter ce genre de bateau. En fait, je me suis contenté d'un petit porte-conteneur qui fait 850 boîtes, mais comme les structures sont les mêmes, comme je viens de l'expliquer, voilà, on en photographie un petit et puis on l'étend, on l'étire.
Et puis alors, vous placez la caméra, pour reprendre l'image de l'équipe de cinéma, vous placez la caméra dans des endroits tels qu'on a une impression de vertige constant lorsqu'on voit la protagoniste féminine qui saute à l'eau, Largo Winch qui lui succède. On est presque dans une superproduction hollywoodienne.
Mais j'essaye un petit peu de rendre l'impression que j'ai eue quand j'étais sur ce bateau. Vous avez vu, tout comme moi, des paquebots de croisière. Ça s'étale sur 13, 14 étages. Quand ça rentre dans un port, c'est plus haut que tous les buildings environnants. Quand on monte sur un porte-container et qu'il est bien chargé, qu'on est en haut dans le poste de pilotage, là où le commandant, avec un joystick, dirige ce bateau, évidemment, il y a une espèce de vertige. Si vous marchez sur les conteneurs en haut, en hauteur, vous êtes exactement comme sur un building de 6 étages. Avec la mer en contrebas, encore un peu plus bas, parce qu'il y a encore la coque. Donc voilà, ces impressions-là, cette espèce d'univers métallique, ce vertige dont on parle, et la mer autour, avec cette insécurité, ce sont des choses que j'ai éprouvées quand j'étais en repérage. Et je veux le rendre sur le papier après.
En tout cas, c'est le vertige, on le ressent. On imagine bien ce que vous avez dû ressentir quand vous faites un repérage. Cela veut dire que tous les endroits que vous allez filmer, lapsus que vous allez dessiner, ce sont des endroits dont vous retirez davantage la substance en y étant ou de la documentation photographique pourrait suffire. On doit quand même ressentir quelque chose en étant sur place.
Oui, puis il y a une part d'imagination aussi. Il y a des choses pour lesquelles je ne me documente pas, ou j'en ai peu. Mais ce n'est pas nécessaire, parce que je peux très bien m'imaginer. Je parle par exemple du petit sous-marin, qui est quelque chose que j'ai été chercher sur Internet. J'ai appelé le distributeur en France. Il m'a envoyé de la documentation. Et puis après, mon imagination fait le reste. Je n'ai pas été dans un sous-marin pour dessiner cette chose. C'était inutile, parce que d'abord, la séquence est courte. Et puis, il ne s'y passe pas grand-chose. Mais pour le porte-conteneur en question, c'était important. C'est important d'y aller. Mais voilà, la documentation est une chose. Après, on peut toujours la pervertir, la travestir. Ce qui est important dans le fait d'aller sur place, de se documenter, de prendre des photos, de se renseigner, c'est d'avoir une bonne idée de ce qu'est la réalité. Et maintenant, si le scénario me demande justement de la trahir, ou parce que la manière dont c'est raconté dans l'histoire, je ne peux pas décemment suivre pas à pas cette réalité. Si je suis amené à tricher, je sais exactement dans quelle mesure je vais tricher par rapport à ce qui est plausible ou non plausible.
Ma dernière question, Philippe Franck, portera sur... On revient à la relation scénariste-dessinateur. Est-ce qu'il y a une situation? Est-ce qu'il y a un dessin? Est-ce qu'il y a un endroit que vous aimeriez voir figurer dans un scénario de Jean Van Damme? Est-ce que c'est quelque chose, tout comme il vous soumet les scénarios, est-ce qu'il y a des histoires ou des situations dans lesquelles vous aimeriez vous confronter, vous, en tant que dessinateur?
Non, parce que en tant que dessinateur, justement, je suis amené à dessiner et je suis toujours sollicité par Jean à dessiner des choses que je n'avais jamais imaginées au départ. J'adore les surprises. Si je devais émettre des souhaits d'un décor particulier ou d'un endroit particulier sur la planète, probablement que ce serait un peu réducteur. Parce que le fait de vouloir dessiner quelque chose, on réalise déjà au moment où on commence à le dessiner une partie du fantasme, et donc du coup on est moins exigeant que si c'est une demande, une contrainte particulière demandée par le scénariste, à laquelle on ne s'attendait pas et pour laquelle il va falloir sortir des ressources de soi-même et évidemment se dépasser à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas quand on réalise un fantasme. La réalisation d'un fantasme est toujours plus faible et plus mièvre que le travail qu'on va, on va dire, produire pour sortir quelque chose de soi qu'on n'avait pas envie particulièrement de réaliser.
Très bien. Eh bien, Philippe Franck, nous allons interrompre ici cet entretien pour lequel je vous remercie. Je rappelle le titre du dernier album en date de Largo Winch, c'est « Colère rouge », avec bien entendu au scénario Jean Van Damme, que j'irai rencontrer aussi pour avoir l'autre version de la même histoire. Merci Philippe Franck.
Merci à vous.
Les rencontres d'Edmond Morel.